Vous écoutez RTL.
Pourquoi ne ressemblons-nous pas aux crapauds ?
La curiosité est un vilain défaut.
Pour le savoir, il faut aller à l'intérieur des chromosomes pour découvrir le célèbre ADN.
RTL.
C'est le long de cet incroyable fil qu'est inscrit notre plan de fabrication. Et il est un peu différent de celui des crapauds.
Jusqu'à 22h.
Nous avons aussi une partie de notre ADN qui est propre à chacun. C'est cette partie d'ADN qui intéresse la police, par exemple.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Faut que j'arrête d'embrasser des crapauds, alors.
Oui, j'allais dire que vous aviez un ADN de princesse, mais moi pas un ADN de crapaud. Allez, l'ADN, c'est un mot que l'on entend de plus en plus souvent dans l'actualité scientifique, médicale également. Mais que veut-il dire? Que changent les découvertes récentes en matière d'ADN? Vont-elles vraiment révolutionner la médecine et la longévité humaine? On répond à toutes ces questions avec notre invité Pierre Darluc, qui est directeur de recherche émérite au CNRS. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur RTL. On va commencer par la base. Ça veut dire quoi, ADN?
Ça veut dire acide désoxyribonucléique, ADN.
Acide désoxyribonucléique. Il est présent partout dans chaque cellule de notre corps.
Contrairement à ce que vous pensiez, l'ADN du crapaud et l'ADN de l'homme ont des structures quand même très très comparables.
Ils se ressemblent.
Ils se ressemblent. La seule différence, c'est l'enchaînement qu'ils représentent et l'information qu'ils portent. Mais la structure moléculaire elle-même est quasiment identique.
Et dans notre corps, on a le même ADN partout. Je ne sais pas si ma question est scientifique, si on prend un poil ou un peu de sang ou un sourcil, c'est toujours le même ADN qui ressort.
On a 10 000 milliards de cellules dans le corps environ. Ouais. Et toutes nos cellules possèdent le même ADN. Sauf que dans chacune de ces cellules, l'ADN ne s'exprime pas nécessairement de la même façon. C'est-à-dire, si on considère que l'ADN, c'est une information, il y a des parties qui vont s'exprimer dans certaines cellules, pour devenir, par exemple, un pancréas, ou d'autres parties vont s'exprimer pour être un muscle, etc. La base restera la même quand même. C'est
d'accord.
Le même ADN dans toutes les cellules.
On est déjà très surpris en apprenant la curiosité que le crapaud et l'homme ont presque le même ADN. Il s'en est fallu de peu quand même pour qu'on soit encore à quatre pattes. Mais alors, est-ce que ça veut dire que tous les êtres vivants ont un ADN?
Alors, tous les êtres vivants, animaux comme plantes, ont de l'ADN.
Ah, même les plantes?
Même les plantes ont de l'ADN. En fait, c'est les virus qui ont pas de l'ADN, ils ont de l'ARN, c'est-à-dire une molécule qui y ressemble, mais qui n'est pas exactement la même.
Qui est comme un faux ami, c'est ça en quelque sorte ?
En quelque sorte, on va dire ça.
On représente l'ADN souvent sous forme d'hélice, ou plutôt d'une double hélice. Ça signifie quoi ?
Alors c'est une double hélice, en sens que chaque brin de cette hélice est formé de molécules, de plusieurs molécules qui s'enchaînent, un peu comme un collier de perles, en quelque sorte.
Comme un chapelet, en quelque
comme
sorte.
Comme un chapelet, sauf que le chapelet, c'est rond, et là, il n'est pas forcément rond, on va dire.
D'accord.
Mais ce chapelet est formé de boules, et chacune de ces boules, c'est en fait une molécule, et il y en a au moins quatre différentes, qu'on les appelle A, T, C et G. Et donc, l'ADN est une combinaison de ces quatre lettres de l'alphabet, d'une certaine façon. Alors, le fait qu'il y ait une double hélice, ça vient du fait que chaque fois qu'il y a un A sur l'un des brins, vous avez un T sur l'autre brin. Quand vous avez un C sur un brin, vous avez un G sur l'autre brin.
Elles se répondent en quelque
sorte. Autrement
dit,
elles sont correspondantes les unes les autres. Ce qui est quand même très très malin. Parce que quand vous séparez les deux brins, il est possible de reconstituer la partie manquante, puisqu'elles se correspondent.
D'accord.
Et donc, d'un brin, vous pouvez arriver à en faire un 2, 4, 6, 8, etc. Par ce processus qui est la correspondance entre les lettres de l'alphabet de l'ADN.
Voilà. D'accord.
Mais dans la cellule, on a l'ADN. Chez l'homme, c'est 3 milliards de bases, en fait. 3 milliards de ces fameuses boules.
Ah, c'est énorme.
Pour vous donner un exemple, oui, c'est énorme. Le petit livre pour lequel vous m'avez invité, il fait 120 pages, 70 000 caractères. Il faudrait 4 200 000 de ces livres pour arriver à remplir tout mon ADN.
C'est génial.
On espère
que vous allez vendre tout ça,
On a vu la complicité du corps humain grâce à cette explication, c'est génial. Origine, l'ADN a-t-il réponse à tout? C'est le titre de ce livre dont vous venez de parler, publié aux éditions Les Petites Pommes du Savoir. Alors cette double hélice antiparallèle, je crois que c'est ça le terme qu'on emploie, cette double hélice, qui l'a identifiée ou inventé, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là pour des chercheurs, oui.
Qu'il a découvert, d'une certaine façon, oui. Mais c'est une longue histoire, en fait. Hein. Parce que d'abord, il a fallu la découverte des chromosomes. Et ça, c'est dans les années 1910. Mmh. Après, il a fallu voir quel était le produit dans les chromosomes qui était le support de l'hérédité. Et ça, c'est dans les années 40. Donc là, on savait qu'il y avait une molécule qui était le support de l'hérédité. Il a fallu attendre donc la découverte Watson et Crick, aidé en cela par une femme qu'on a oublié, à qui on a oublié de donner le prix Nobel.
Ah bah tiens, c'était un thème de l'émission il y a quelques semaines. Voilà, ça. Voilà, 17 femmes prix Nobel de science seulement dans toute l'histoire des Nobel. Donc en voilà une qui l'aurait mérité. Comment elle s'appelle? On peut redire son nom?
Elle s'appelle Rosalind Franklin.
Rosalind Franklin, voilà. Merci d'être venue la citer ici.
C'est assez souvent que les femmes sont oubliées, hein, vous savez, pour la trisomie 21, là aussi une femme a été largement oubliée.
L'ADN, c'est donc 23 paires de chromosomes, chacune a vraiment un rôle, chacune de ses paires?
Alors, chacune de ses paires, à l'intérieur de chacune de ses paires, il y a un grand nombre de gènes, et chacun de ces gènes a un rôle particulier. Il n'y a pas un rôle qui est attribué à un chromosome plutôt qu'à un autre. Sauf, évidemment, la paire des chromosomes sexuels.
Oui, qui définit notre genre.
Qui définit notre genre, voilà. Mais à part ça, chaque gène se trouve sur un chromosome ou sur un autre. Voilà, donc...
Si j'ai bien compris, on peut isoler tel ou tel gène. Ça veut dire qu'on peut isoler le gène qui donne les cheveux bruns ou celui qui fait que je suis myope, par exemple.
Par exemple, mais pour prendre des choses plus proches, le système ABO, par exemple, est sur le chromosome 9.
Oula, alors là, j'ai pas compris.
Le système ABO, quand vous donnez votre sang, on va vous dire quel type de sang vous avez.
Okay.
D'accord, vous êtes du type A,
c'est le groupe sanguin.
Groupes sanguins.
D'accord.
Sur le chromosome 9, vous avez l'hémoglobine, c'est sur le chromosome 16 et 11. Vous avez la lactase, qui est sur le chromosome 2.
C'est quoi la lactase?
La lactase, c'est une enzyme qui vous permet d'assimiler le lactose.
Ah oui.
De digérer le lait.
Donc vous voyez, je vous donne quelques exemples. Et pareil, puisque vous tenez aux yeux bleus, les yeux bleus doivent être sur le chromosome, j'ai pas noté.
Ah ben voilà, on va le trouver.
Vous chercherez parmi votre ADN.
Moi, j'en ai deux, yeux bleus en tout cas.
Oui, j'en ai deux, oui.
Allez, derrière ces découvertes, il y a une promesse, connaître nos origines, savoir d'où l'on vient. Vous allez voir que c'est aussi un business. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
C'est l'ADN que l'on découvre dans la curiosité. L'ADN et tout ce que sa connaissance offre comme perspective. Pierre Darlu, directeur de recherche au CNRS, nous permet de tout comprendre sur RTL et dans un livre aussi publié aux éditions Les Petites Pommes du Savoir. Origine, l'ADN a-t-il réponse à tout? C'est le titre de votre livre. D'ailleurs, comment l'ADN peut-il nous permettre de remonter à la rencontre de nos ancêtres? Ça paraît fou.
Oui, là, c'est en fait du marketing, hein, on va dire.
Oh, mais il y a une réalité, il y a des recherches quand même et des informations qu'on peut obtenir.
Il y a aussi, mais il faut s'entendre par le mot origine. D'ailleurs, dans le titre, il y a un S, comme vous voyez, origine au pluriel. Mmh. Et puis, il y a un point d'interrogation à la fin du titre, ce qui veut dire bien que les choses ne sont pas aussi certaines qu'on veut bien les montrer dans les médias.
Pour bien comprendre, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on nous propose à tous d'ailleurs, de pouvoir analyser notre ADN afin de comprendre qui étaient nos ancêtres?
Eh bien, d'abord, il faut voir que l'origine, c'est l'origine généalogique aussi. Hein. Vous savez que vous avez deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, etc., etc. Donc, si vous remontez jusqu'à la dixième génération, vous auriez 1000 ancêtres. D'accord? Et vous montrez, si vous remontez encore plus loin, par exemple, il y a 800 ans, vous auriez un nombre d'ancêtres considérable, largement plus que vous auriez 40 millions d'ancêtres, alors qu'à l'époque, il n'y avait que 400 ou 500 000 habitants sur la Terre. Autrement dit, il y a un bug là, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Donc on a tous des ancêtres communs en fait.
Voilà, alors en fait, c'est qu'il y a des boucles dans les généalogies, c'est-à-dire une même personne peut avoir des ancêtres communs dans sa même lignée, et deux individus peuvent avoir des ancêtres communs. Autrement dit... la conclusion, c'est que finalement, nous sommes tous parents à un moment donné. D'accord? Donc, nous avons tous, vous comme moi, les mêmes ancêtres, quelque part dans l'histoire. Donc, ça, c'est l'aspect généalogique, en fait. Hein. Mm-hmm. Ensuite, l'ADN va-t-il nous permettre de résoudre la question? D'accord? On sait que l'ADN se transmet des parents aux enfants, selon les fameuses lois de Mendel que certains ont appris au lycée et qu'ils ont certainement oublié d'ailleurs pour une bonne partie.
Moi oui en tout cas.
On va pas peut-être J'avoue. Les rappeler ici, mais ça veut dire qu'on reçoit l'ADN, une partie de l'ADN du père et une partie de l'ADN de la mère.
Oui.
Voilà. C'est cette combinaison-là qui fait que nous avons notre ADN en propre. D'accord. Donc, pour savoir d'où l'on vient, évidemment, il faut avoir des références. D'accord. Or, les références, on les trouve dans les banques de données. Les banques de données sont des banques dans lesquelles sont consignées les profils génétiques, l'ADN, donc, de grands nombres de personnes qui appartiennent à des populations différentes. D'accord. Donc, on va regarder en quoi votre ADN à vous, avec ses caractéristiques propres, ce que j'appelle son profil, qui fait que c'est le vôtre et pas celui du voisin, en quoi il ressemble le plus à certaines populations que l'on trouve dans les banques. Donc on va dire, par exemple, vous avez un ADN qui ressemble énormément à une population qui habiterait au Maghreb, par exemple. Ou bien vous avez un ADN dont le profil ressemble beaucoup à des populations venant du Vietnam. D'accord.
Ouais.
Mais vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'origine à proprement parler. Il s'agit d'attribution de votre ADN, de vos caractéristiques ADN, à des références de population actuelles.
Mais on voit bien on parlait de business, on voit bien le business que ça peut représenter pour certaines populations, notamment aux États-Unis. La question de l'origine pour les Afro-Américains aux États-Unis, légitimement d'ailleurs, c'est une question qu'ils se posent depuis longtemps. Et donc, ils essayent, pour certains d'entre eux, d'y répondre avec des sites internet ou des...
Même le National Geographic, le magazine, a proposé à ses lecteurs de pouvoir, comme ça, faire des prélèvements d'ADN et de raconter et de révéler d'où venait... Moi, j'ai un ami qui l'a fait.
Ouais.
C'était en pourcentage, donc 70% mexicain, 20% américain, 10% africain. Enfin, il a découvert ça, c'est ce qu'il a reçu, quoi, dans sa boîte aux lettres.
Et donc, ça, c'est une fausse promesse? C'est que du business? Comment on peut répondre à ça?
C'est du business. Vous pouvez vous en contenter et dire, voilà, je suis content de savoir que l'ADN que m'ont transmis mes parents vient du Bénin ou vient d'Afrique du Nord, etc. Bon, le problème des Afro-Américains, c'est vrai aussi pour nos Antilles. Il ne faut pas oublier que nous avons eu beaucoup d'esclaves.
Bien sûr.
Hein, et qui, pour lesquels maintenant on a beaucoup de généalogie, mais la généalogie s'arrête à 1840. Au moment de 1848, au moment où là, ils sont devenus français à part entière. Avant, il n'y a pas de registre. Donc, il y a toute une absence d'historicité dans leurs racines. Donc, les Afro-Américains, comme nos Antillais, cherchent à avoir des informations supplémentaires. La technique est bien celle que je vous ai donnée, c'est-à-dire on va prendre leur ADN, on va regarder en quoi leur profil est proche ou lointain de certaines populations d'Afrique. D'accord. Mais il faut bien voir que ces populations africaines actuelles ne sont pas nécessairement ni localisées au même endroit, ni exactement pareilles du point de vue génétique de celles qu'il y avait au moment de la traite négrière. Vous voyez. Donc, évidemment, c'est assez satisfaisant. On a une petite information, mais elle est extrêmement minime malgré tout, et elle doit être examinée en fait en termes de probabilité, parce qu'il y a tous des calculs qui sont faits, dont je vous passe les détails, mais qui revient à dire qu'on a une certaine chance que ça vienne de là plutôt que de là.
Pierre Darlu, il y a aussi ce qu'on fait de ces tests et de ces recherches sur les origines. Dans votre livre publié aux éditions Les Petites Pommes du Savoir, l'ADN a-t-il réponse à tout? Point d'interrogation. Vous racontez l'histoire de Danzig. Je ne sais pas si je prononce bien. Qui est-il et qu'est-ce qui lui est arrivé à cet Danzig?
Danzig, c'est un enfant qui a été trouvé dans une tombe et qui a été daté d'environ 12 000 ans environ. Hein,
avant notre ère.
Avant
aujourd'hui, donc, d'accord.
Voilà. C'est la période dite Clovis.
Oui, voilà. Ok.
Donc,
il a été trouvé dans quelle région? Aux États-Unis?
Dans le Montana.
Dans le Montana, ouais. D'accord.
Donc la question, c'est son ADN ancien, tel qu'on a pu le reconstituer, était relativement ressemblant à l'ADN des Indiens qui y vivent actuellement. Donc la question qui s'est posée, c'est une fois que l'ADN a été extrait, c'est que faire de cet enfant? Évidemment, les Indiens ont voulu le réinhumer.
Ouais.
Et ils l'ont réinhumé en utilisant le rituel qui était le leur actuellement. Alors, il faut quand même réfléchir à la question, c'est qu'il y a en 12 000 ans, c'est-à-dire il s'est passé 800 générations, Et il est probable que la culture qui existait il y a 800 générations n'était pas nécessairement celle qui se pratique actuellement pour enterrer les morts. Et donc, le fait qu'on ait voulu enterrer cet enfant selon les rites actuels, ça laisse entendre que l'ADN, finalement, aurait d'une certaine façon porté un message culturel qui n'aurait pas varié au cours du temps.
Effectivement. Et alors, on est presque dans
ça ne fait pas de mal d'enterrer quelqu'un selon ses rites.
Oui.
Mais c'est une illusion de penser qu'il y a
eu 100 ans,
les rites étaient les mêmes, parce que l'ADN est le même.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Le verdict vient de tomber. La cour s'est prononcée en faveur de la culpabilité d'Omar Radad.
L'ADN masculin trouvé sur les lieux du crime n'est pas celui d'Omar Radad.
C'est bien cette inscription tracée en lettres de sang qui, 25 ans après, va peut-être livrer la clé de ce mystère criminel. Jusque-là, ces traces présentant des ADN mélangés n'avaient pas pu être correctement exploitées.
Votre enquête doit nous servir. J'ai besoin d'éléments nouveaux pour monter un dossier de demande en révision.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dans la curiosité, on aime bien prendre ces mots qui font régulièrement la une de l'actualité et savoir ce qu'il y a derrière, par exemple, l'ADN. On en parle depuis des années dans des dossiers comme l'affaire Omar Radad. On en parle beaucoup aussi en matière médicale depuis quelques mois. On a voulu en savoir plus grâce à Pierre Darlu, qui est directeur de recherche émérite au CNRS. Pierre Darlu, vous publiez aux éditions Les Petites Pommes du Savoir ce livre « Origine, l'ADN a-t-il réponse à tout ?» Avant de parler de santé, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire d'origine. Par exemple, les progrès en matière d'ADN, ça permet de savoir comment notre ancêtre sapiens, homo sapiens, c'est quoi, a essaimé sur la planète. Le berceau, c'est l'Afrique, et ensuite on le suit à la trace, en quelque sorte.
Oui, effectivement, on peut le suivre à la trace. C'est-à-dire, encore une fois, c'est en faisant des relevés sur les personnes, les populations qui existent actuellement. On fait donc des inférences, c'est-à-dire on va déduire de la diversité que l'on observe actuellement dans les différentes régions, dans différents continents, et à partir de ces comparaisons entre les différents ADN de différentes populations, on va en déduire le chemin parcouru. D'accord ? Et ce que l'on peut observer, c'est que l'ADN est très varié en Afrique, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup le temps de mutation pour se produire, ce qui signifie que l'origine de l'homme était probablement en Afrique. D'accord. Et ensuite, on peut effectivement suivre la trace de la sortie d'Afrique environ 100 000 ans et laisser l'essaimage dans toute l'Eurasie jusqu'à environ 40 000 ans, jusqu'en Australie. Donc finalement, relativement rapidement, en nombre de générations, l'homme galopait très très vite pour alors savoir ce qui le poussait pour aller voir ailleurs et au-delà de ce qu'il voyait. Ça, c'est une question psychologique qu'il faudrait, à laquelle on peut difficilement répondre à leur place.
Et alors, ce qui est drôle, ce que j'ai découvert dans votre livre, c'est qu'il y a eu le « out of Africa », c'est-à-dire que les sapiens qui sortent d'Afrique, qui SM, mais il y a eu aussi ceux qui y revenaient.
Oui, donc quand on parle de sortie d'Afrique, il ne faut quand même pas oublier que beaucoup d'homo sapiens sont restés en Afrique.
Bien sûr, évidemment.
Voilà. Cela dit, oui, il y a eu quelques retours. Effectivement, il y a en Éthiopie, on a trouvé un squelette qui effectivement montrait des caractéristiques d'ADN qui étaient celles du Moyen-Orient. On l'a retrouvé actuellement en Éthiopie et il est assez comparable à certaines populations qu'on trouve actuellement en Éthiopie. Donc effectivement, il y a eu de petits out of Africa, retour en Afrique, mais très, très limité. Ouais. On a cru à un moment donné que c'était allé jusqu'en Afrique du Sud, mais en fait les données étaient fausses. L'interprétation était erronée.
Aujourd'hui, Pierre Darlu, avec toute cette grande connaissance qu'on a de l'ADN, l'ADN ouvre évidemment des perspectives médicales incroyables. On a besoin de quoi chez l'individu pour définir son ADN? On a besoin de quoi? Son sang? De prélever son sang, par exemple?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ADN, il y en a partout. Donc
même un cil?
Même un cil, même généralement,
de la salive.
Évidemment, si on fait un prélèvement de sang, on va avoir une quantité beaucoup plus importante. Mais on peut prendre de la salive, par exemple. Et la police et la gendarmerie sait très bien qu'avec un tout petit peu, une toute petite trace d'ADN, on arrive à l'amplifier et à trouver les caractéristiques.
Et on peut aller jusqu'à cibler le gène qui nous intéresse dans cet ADN.
Cibler, effectivement, si on connaît le gène et savoir si on sait où il se place dans l'ADN, on arrive à le localiser et à étudier les variantes de ce gène. Voilà.
C'est-à-dire
le gène, évidemment, va se présenter éventuellement sous différentes formes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir les fameuses boules dont j'ai parlé tout à l'heure ont pu muter, se modifier, si bien que deux formes du même gène peuvent être différentes. Et donc, du coup, si une mutation est défavorable, évidemment, ça va pénaliser la personne qui le porte.
Alors, en matière médicale, Pierre Darlu, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la connaissance, on peut, en analysant, en séquençant, je crois que c'est le terme, l'ADN d'un individu, anticiper sur les maladies dont il va pouvoir souffrir à l'avenir ?
Alors, c'est ce qu'espèrent faire certaines compagnies qui dans ce business, en fait.
Bien sûr.
Alors là, il faut différencier différents types de maladies. Il y a les maladies que l'on appelle monogéniques, c'est-à-dire qui sont dictées par un seul gène et que l'on connaît bien, dont on connaît la localisation, dont on connaît les variants.
Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme maladie monogénique ?
La mucoviscidose, par exemple.
D'accord.
Voilà, le daltonisme, par exemple.
Ok.
Pas une maladie très grave, mais voilà. Et en revanche, il y a toutes les autres maladies qu'on appelle polyfactorielles. Comme le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, etc., qui sont des maladies pour lesquelles il y a probablement un grand nombre de gènes qui interviennent, mais il y a aussi tous les facteurs d'environnement, l'alimentation, le stress, les conditions sociales, etc. Et là, malheureusement, l'ADN n'a rien à dire là-dessus. Voilà.
Mais est-ce qu'on peut avoir
l'ADN ne peut pas tout.
Oui, mais est-ce qu'on peut avoir un terrain favorable, c'est-à-dire un terrain favorable à tel ou tel type de maladie.
À la myopie, par exemple, pour parler des maladies pas graves, bien sûr.
Oui, mais quand je parle de terrain favorable, ça veut dire que on pourrait modifier son comportement, faire plus attention à tel ou tel, j'en sais rien, type d'alimentation ou tel type de comportement dans la vie, parce qu'on a un terrain favorable. Vous voyez ce que je veux dire ?
Vous avez toujours intérêt à faire attention.
Oui, ça c'est sûr. Mais je me place dans une perspective.
Vous pourriez avoir votre cabinet de santé, c'est ça,
exactement.
Thomas, avec toutes les potentielles toutes les potentialités de maladies possibles.
Ça serait quand même assez dangereux. Parce que si on vous dit, bon, finalement, vous n'avez aucune chance d'avoir de l'hypertension, donc vous allez pouvoir abuser, finalement. Et donc, ça serait quand même assez défavorable pour vous. Mais vous allez vous mettre à fumer, vous n'allez plus faire de sport.
J'ai jamais commencé. Je pense qu'à 50 balais, c'est trop tard. Je ne vais pas me mettre à fumer.
Donc, ça veut dire que la connaissance de l'ADN ne nous sert pas, finalement, à prendre soin de notre santé, à moins tomber malade ?
Globalement, non. Je pense que vous avez intérêt à prendre soin de vous sans avoir besoin de faire du séquençage.
Mais vous êtes mon médecin traitant ou quoi ?
mais c'est effectivement la promesse que font certaines sociétés. Et Google investit beaucoup d'argent pour avancer, notamment en la matière. On va terminer là-dessus. Quand vous entendez ce qu'on appelle les transhumanistes dire dans des conférences, dans cette salle, il y a un enfant qui est né il y a une dizaine d'années, va vivre jusqu'à 150 ou 200 ans, voire plus pour certains, ça dépend des discours. Vous les prenez pour quoi ? Pour des visionnaires ? Pour des fous ?
C'est un peu entre les deux, on va dire. Hein, parce que je ne pense pas que l'ADN permette d'assurer une survie aussi longue. De toute façon, même si c'était le cas, ça ne serait réservé qu'à une infime population.
Très riche.
Du point de vue énergétique, ça ne serait peut-être pas très écologique. Et ça n'empêcherait pas ces gens de se faire écraser quand l'autobus passe devant eux.
Merci beaucoup Pierre Darlu. Plein d'infos encore à découvrir dans votre livre « Origine, l'ADN a-t-il réponse à tout ?» C'est publié aux éditions Les Petites Pommes du Savoir.
Vous écoutez RTL.